Nous sommes le 24 décembre 1886. À travers la France, dans les villes, les villages, les familles se rassemblent. Les femmes préparent le repas de Noël. Les hommes partent chercher une imposante bûche qui devra brûler dans l'âtre tout au long de la veillée. Et partout, les enfants courent, s'impatientent, s'agitent dans l'attente des festivités et des cadeaux. Mais cette année, dans quelques heures, une petite fille va vivre un moment qui va changer sa vie et qui va transformer dans les années qui suivront la spiritualité de dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Quelques heures plus tard, à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Paris, un jeune homme va être touché par une conversion fulgurante, passant en une seconde d'athée à croyant convaincu. Lui aussi aura une influence majeure sur ses contemporains. Tous deux vont faire l'expérience de l'amour de Dieu et en seront à jamais transformés. Mieux encore, ils contribueront à éclairer le monde, chacun à sa façon. Ces deux personnes sont Sainte Thérèse de Lisieux et Paul Claudel. Que s'est-il passé en ce jour de Noël 1886 pour transformer ainsi, le même jour, deux personnes, aussi différentes dans leur lieu de vie, dans leur entourage social ou familial, mais aussi dans leur âge, l'une n'étant encore qu'une enfant et l'autre un jeune homme un peu perdu. Il deviendra ensuite diplomate et artiste, il fera le tour du monde, côtoiera certains grands de ce monde, comme le président américain Roosevelt. Elle sera religieuse, cloîtrée, et quittera cette terre dans sa jeunesse, à seulement 24 ans. Quel rayonnement aura chacun d'eux, à travers ses œuvres, ses écrits, mais aussi ses gestes les plus simples ou ses silences. Retour sur une fête de Noël qui changera le monde. Lisieux, une petite ville du département du Calvados. À quelques heures de la veillée de Noël, en ce 24 décembre, les préparatifs battent leur plein. Nous sommes dans une belle maison bourgeoise, située à quelques centaines de mètres de la cathédrale, vers laquelle tout le monde va bientôt se diriger pour fêter la naissance du Sauveur. La famille est en effet très croyante. Marie-Pauline, une des enfants, est carmélite depuis quelques années. L'aînée des sœurs, Marie, vient de la rejoindre il y a 2 mois à peine, suivie peu de temps après par Léonie, qui est entrée chez les Clarisses. 3 des filles sont donc religieuses. Ne reste à la maison que les 2 filles les plus jeunes, Céline et Thérèse, et leur père Louis. La maman Zélie n'est plus là. Elle a quitté ce monde 9 ans plus tôt, emportée par un cancer du sein. Elle a rejoint au ciel certains de ses enfants. Sur les 9 que le couple Martin a mis au monde, 4 sont morts en bas âge. Le frère Benoît-Marie de l'enfant Jésus, carme au couvent de Toulouse, nous parle de cette famille.
C'est une famille très chrétienne, marquée par une foi très profonde et aussi marquée par la mort. Les décès successifs des enfants sont très très marquants pour les parents, mais qui vivent, qui accueillent ces décès dans une foi très profonde. Mais inévitablement, la petite Thérèse en sera marquée.
Thérèse, la petite dernière, aura 14 ans dans quelques jours. Ces dernières années ont été pour elle pleines de combats. Depuis le décès de sa mère, alors qu'elle n'avait que 4 ans, sa famille a déménagé à Lisieux, quittant leur précédente vie à Alençon. Fini la joyeuse agitation de la boutique de Louis, son père, qui était horloger. La vie à Lisieux est maintenant pleine de silence et de solitude. Pour passer le cap, la petite fille a noué une relation très profonde avec sa sœur Pauline, la choisissant même comme sa seconde maman. Or, il y a 4 ans, celle-ci a quitté la famille pour entrer au Carmel. L'épreuve a été rude pour Thérèse, qui a vécu un véritable abandon.
Le départ de Pauline au Carmel redéclenche ce syndrome d'abandon que Thérèse a contracté en étant mise en nourrice très tôt et qui a été renforcé déjà par le décès de sa mère à ses 4 ans. Donc le départ de Pauline redéclenche et cristallise ce problème névrotique qui sera guéri justement par le sourire de la Vierge plus tard. Et puis elle a cette grande grâce de guérison de la Vierge à ses 10 ans, qui assoit définitivement sa relation personnelle avec la Vierge et le Seigneur.
La petite Thérèse se réfugie dans la lecture. Elle y croise Jeanne d'Arc, qui fait vibrer en elle certains idéaux.
Jeanne d'Arc est la sainte et l'héroïne du moment. qui est patronne de la France. Donc la foi du 19e unit vraiment foi et je dirais idéal politique, idéal de grandeur de la France. Jeanne d'Arc parcourt une aventure incroyable qui sauve la France. Jeanne d'Arc est un idéal de vie de femme accomplie. Et en plus, par sa virginité, elle a quelque chose de la vie religieuse déjà, à laquelle Thérèse aspire.
Le départ de ses deux sœurs, Marie et Léonie, a eu lieu il y a quelques mois et a fini de vider la maison. Ce double départ ravive son sentiment d'abandon. La grande enfant qui attend Noël est hypersensible, à fleur de peau, comme elle le raconte dans ses manuscrits compilés dans le livre « Histoire d'une âme ».
J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine. Et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré.
Mais Thérèse est aussi une enfant qui est ravie à l'idée de fêter Noël, et en particulier d'ouvrir ses cadeaux.
Nous revenions de la messe de minuit, où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. En arrivant au Buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé, puisque j'étais la plus petite de la famille. Papa aimait à voir mon bonheur, à entendre mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés. Et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Je montai alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Oh, Thérèse, me dit-elle, ne descends pas, cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver.
Cette conversion de Noël est donc en tout premier lieu un choix personnel. Elle choisit de changer sa manière de voir les choses et de transformer son humeur grâce à un effort personnel.
Alors, ça paraît complètement anodin. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme Bethléem. Bethléem, c'est un petit enfant pauvre avec Marie et Joseph dans un endroit peu couru. Et pourtant, c'est ce qui va sauver le monde. Et là, de manière analogue, cet événement qui est anodin, elle retient ses larmes une nuit de Noël, en fait, a une densité extrêmement importante, un retentissement, un impact extrêmement important pour elle. Et en fait, il y a derrière cet événement matériellement anodin une grâce puissante à laquelle Thérèse a consenti.
Thérèse comprend que cet événement vécu à Noël a deux conséquences. Tout d'abord, son effort a un effet sur son père. Il le rend joyeux. Il fait donc le bien en agissant sur les gens. Le second effet est le don d'une grâce par Dieu qui lui enlève son hypersensibilité.
Pour moi, je vois deux plans, celui de la conversion et de la grâce. La grâce est ce don de Dieu. La conversion, c'est la réponse au don de Dieu. Et on voit que, si vous voulez, Thérèse est guérie en cette nuit d'une hypersensibilité. Donc, c'est d'abord une guérison au plan naturel. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Thérèse en parle, elle, comme une grâce de conversion. C'est-à-dire que elle regarde les choses du point de vue de sa relation à Dieu et aux autres. Pour elle, cette guérison de son hypersensibilité, qui avait pour effet de la renfermer sur elle-même, et donc de la couper d'une certaine manière de la relation aux autres et à Dieu, eh bien, l'effet de cette guérison, c'est de retrouver enfin l'oubli de soi et de trouver l'amour. Elle dit que l'amour est entré en elle. Hein. Et donc, elle analyse au plan théologal, au plan du don de la grâce et de sa réponse, et de l'effet, je dirais, d'amour qui suit.
Cette expérience change sa vie. C'est le départ d'une nouvelle étape, la plus belle selon ses propres mots.
En cette nuit de lumière, commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat. Mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géant. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement.
Cette grâce qui lui retire son hypersensibilité est plus qu'un cadeau. Elle répond à un besoin vital pour Thérèse. En effet, la vie de carmélite dont rêve la jeune fille est particulièrement rude en cette fin de XIXe siècle. Comment vivre les petites humiliations ou les remarques de ses supérieurs si on est hypersensible et que l'on se met à pleurer à la première émotion? Cette grâce est donc immense pour Thérèse. Elle lui rend maintenant possible l'entrée au Carmel.
Il était inconcevable qu'avec une telle hypersensibilité, avant la grâce de Noël, elle puisse faire long feu dans un couvent de carmélites. Le Carmel, c'est paradoxal, est à la fois rude du fait de cette vie de clôture, où les relations peuvent être de grande charité, mais aussi la promiscuité est grande. Donc elles peuvent être difficiles, et en même temps, le Carmel, ça la coupe aussi des dangers du monde, pour elle, pour une petite fille adolescente encore fragile.
Cette grâce de Noël donne à Thérèse la confirmation que les efforts payent. À l'image de son héroïne Jeanne d'Arc, elle va entreprendre de vivre la vocation que le Seigneur attend d'elle à la force du poignet, avec un courage viril. Accompagnée par son père, elle part pour Rome avec un pèlerinage diocésain dans l'espoir d'obtenir une autorisation d'entrer au Carmel, malgré son jeune âge. À Lisieux, en effet, tous les responsables retardent ses premiers pas dans l'institution, car ils connaissent l'aridité de la vie de carmélite en ce temps-là, et la difficulté que cela représente pour une jeune fille de 14 ans.
L'horaire du Carmel de Lisieux, 4h45 levée, 5h oraison, 6h petites heures de l'office, 7h messe et action de grâce, 8h petit déjeuner, 9h50 examen de conscience, 10h repas, 11h récréation, 12h silence, 13h travail, 14h vêpres, 14h30 lecture spirituelle, 15h travail, 17h oraison, 18h souper, 18h45 récréation, 19h40 compli, 20h silence, 21h matinée et laude, 23h couché. Donc elle a 5h45 de sommeil à 15 ans.
Son seul espoir est donc d'obtenir l'autorisation du pape, mais elle n'est pas autorisée à lui parler durant l'audience. Avec ce courage à déplacer les montagnes qui la caractérise maintenant, elle va pourtant prendre le risque.
Mon unique planche de salut était la permission du Saint-Père. Mais pour l'obtenir, il fallait lui demander. Il fallait devant tout le monde oser parler au pape. Léon XIII était assis sur un grand fauteuil. Autour de lui se tenaient des cardinaux, archevêques et évêques. Nous passions devant lui en procession. Chaque pèlerin s'agenouillait à son tour, baisait le pied et la main de Léon XIII, et recevait sa bénédiction. avant de pénétrer dans l'appartement pontifical, j'étais bien résolue à parler. Mais je sentis mon courage faiblir en voyant à la droite du Saint-Père Monsieur Réveroni. Presque au même instant, on nous dit de sa part qu'il défendait de parler à Léon XIII, l'audience se prolongeant trop longtemps. Je me tournai vers ma Céline chérie afin de savoir son avis. « Parle, me dit-elle. » Un instant après, j'étais au pied du Saint-Père. Ayant baisé sa mule, il me présentait la main. Mais au lieu de la baiser, je joignis les miennes et levant vers son visage mes yeux baignés de larmes, je m'écriai. « Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. En l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. »
Le pape ne lui accorde pas l'autorisation qu'elle demande, s'en remettant au supérieur du Carmel. Mais Thérèse se révèle tenace, tellement qu'elle doit être évacuée de l'audience par les gardes.
Léon XIII me regarda fixement et prononça ces mots en appuyant sur chaque syllabe. « Allons, allons, vous entrerez si le bon Dieu le veut. » La bonté du Saint-Père m'encourageant, je voulais encore parler. Mais les deux gardes nobles me touchèrent les mains pour me faire lever. Voyant que cela ne suffisait pas, ils me prirent par les bras et M. Réveroni leur aida à me soulever, car je restais encore les mains jointes, appuyée sur les genoux de Léon XIII, et ce fut de force qu'ils m'arrachèrent de ses pieds. Au moment où j'étais ainsi enlevée, le Saint-Père posa sa main sur mes lèvres, puis il la leva pour me bénir. Alors mes yeux se remplirent de larmes, et M. Réveroni put contempler au moins autant de diamants qu'il en avait vus à Bayeux. Les deux gardes nobles me portèrent pour ainsi dire jusqu'à la porte.
Pourtant, ce courage, découvert lors de la nuit de Noël, finit là encore par payer. Malgré le manque apparent de résultats de sa visite au pape, sa ténacité marque les esprits, et elle obtient des supérieurs d'entrer au Carmel, un peu plus d'un an après sa conversion, et quelques mois après sa visite à Rome. Mais la vie de religieuse que Thérèse débute maintenant est rude. Elle découvre que le courage et la volonté, s'ils peuvent s'avérer payants, ne suffisent pas. Elle en découvre les limites.
Donc en fait, elle va faire l'expérience qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Elle reste une gamine de 15 ans. L'horaire du Carmel reste un horaire extrêmement difficile, même pour une femme plus âgée, plus mûre, plus solide. Et puis, d'autre part, elle rentre au Carmel, mais elle n'a pas, au plan de la prière, au plan de la foi, une prière facile, coulante, des grâces extrêmement sensibles, etc. Donc, je pense que tous ces aspects, à la fois humains et puis spirituels, lui montrent que l'attitude à prendre n'est pas la bonne.
Alors qu'elle entre juste dans la vingtaine, la jeune Thérèse a déjà fait des pas de géant dans son chemin spirituel. Après sa conversion du soir de Noël, où elle découvre à la fois la force de la volonté, mais aussi la force d'un Dieu agissant qui lui enlève son hypersensibilité, elle a découvert ses limites et appris à laisser Dieu agir. Mais comment faire pour devenir une sainte malgré ses faiblesses? C'est une vraie question pour elle. Thérèse voulait être une grande sainte, empruntant une grande voie héroïque, comme Jeanne d'Arc. Mais la découverte de ses limites et de ses faiblesses, et leur côté insurmontable, change la donne. Plutôt que de les combattre en vain, seule à la force du poignet, ou de les rejeter, elle choisit d'élaborer une autre voie, qu'elle va appeler la petite voie. Un chemin de sainteté qui emprunte nos faiblesses, nos difficultés, en les assumant, et sans les fuir, et surtout en y laissant Dieu agir. Passer de « je fais » à « Dieu fait ».
Le ciel ne se conquiert pas, mais le ciel se reçoit. Et le grand défi de la vie de foi, eh bien, c'est non pas de quitter ses pauvretés, de quitter son péché à la force du poignet pour aller à Jésus. La transformation de la petite Thérèse, ça va être de comprendre qu'il faut rester petit, c'est-à-dire qu'il faut rester en paix avec sa petitesse, en Jésus, avec Jésus, par Jésus, eh bien, aller où Jésus veut. Et la sainteté se noue là pour moi dans la petite voie. C'est-à-dire, je veux bien faire, donc si je suis colérique, j'essaye de ne plus l'être. J'ai un devoir, dit-elle, de lever le petit pied au bas de la première marche de l'escalier. je n'y arrive pas. Souvent, le Seigneur permet qu'on n'y arrive pas parce que si on y arrivait tout d'un coup, on s'en enorgueillerait, on s'en croirait le responsable. Mais donc, je vais continuer à essayer de ne plus l'être, sans succès. Mais ces insuccès répétés, je vais les vivre, et c'est ça l'un des premiers effets de la grâce de la petite voix, très sereinement, en continuant de regarder Jésus, en disant « Jésus, voilà, regarde ma pauvreté, viens, mais viens comme tu veux, quand tu veux. » Et voyez, ce n'est pas dans une réussite morale, dans une réussite immédiate, que se noue la sainteté pour la petite Thérèse, c'est dans le fait d'accueillir Jésus dans sa pauvreté, dans son insuccès.
L'intuition de cette autre voie de sainteté, la petite voie, aura une répercussion énorme sur le monde, en particulier par les écrits de Thérèse. Alors qu'elle décède dans la discrétion du Carmel à seulement 24 ans, sa vie discrète et cachée aurait dû tomber dans l'oubli. Pourtant, ses fruits seront énormes. Ses manuscrits, compilés dans le livre « Histoire d'une âme », seront une des œuvres spirituelles les plus lues du XXe siècle à travers le monde. Et la reconnaissance de l'apport de Thérèse de Lisieux est à la mesure du rayonnement de sa petite voix. Décédée anonyme au Carmel de Lisieux, elle sera béatifiée en 1923, canonisée 2 ans plus tard en 1925, nommée patronne des missions en 1927, patronne secondaire de la France, comme Jeanne d'Arc, en 1944, et même 33e docteur de l'Église en 1997. Lisieux deviendra le second lieu de pèlerinage de France après Lourdes, avec 1 million de visiteurs par an, témoignant ainsi du retentissement mondial qu'ont aujourd'hui ses écrits et sa spiritualité. La petite voix a rendu la sainteté accessible à tous, grâce à des gestes simples d'attention, d'amour et de don de soi. Ce petit chemin pour tous est maintenant un grand brasier marquant profondément des millions de croyants à travers le monde, qui a été allumé par une petite étincelle, un soir de Noël 1886.